Bonjour, c'est la chronique européenne de Geneviève Saint-Hubert pour le Centre d'information Europe Direct de la Maison de l'Europe de Toulouse-Midi-Pyrénées sur Radio Occitanie. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'une personne, Édouard Boursieux, qui travaille à la Commission européenne et qui va nous parler du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, ce fameux TTIP ou TAFTA, selon ce que l'on en pense, qui est en train d'être négocié donc entre l'Union européenne et les États-Unis. Le 28 janvier dernier, s'est tenue à Toulouse une conférence citoyenne sur le thème donc traité transatlantique, craintes et opportunités. Alors, c'était organisé par Notre Europe à l'Université des sciences sociales et il y avait entre autres intervenants Manuel Bompard qui est le secrétaire national du parti de gauche, Sébastien Jean qui est directeur du Centre d'études prospectives et informations internationales, le CEPI, et le débat était modéré par Elvire Fabry, donc chercheur senior à l'Institut Jacques Delors. Nous allons avoir l'avantage, je dirais, d'écouter Édouard Boursieux, qui est un représentant de la Commission européenne en France pour les questions commerciales. Et je lui ai demandé de nous expliquer simplement ce qu'était ce TTIP et ou ce TAFTA et quels en étaient les enjeux et comment est-ce qu'on pouvait répondre donc aux craintes des citoyens. Je vous propose de l'écouter. Alors donc nous continuons notre petit périple après cette conférence sur le traité transatlantique et enfin nous avons la possibilité d'interviewer Édouard Boursieux. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous travaillez à la Commission européenne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre rôle dans cette négociation sur du traité transatlantique ?
Oui, j'ai été impliqué depuis le début dans le lancement de ces négociations et la conduite de ces négociations. J'étais chef de l'unité stratégie de la Direction générale du commerce et compte tenu de l'importance de ces négociations, la stratégie était importante dans cette dimension. Et maintenant, depuis un mois, je suis envoyé à Paris pour représenter la Commission sur les questions commerciales en France.
Alors, ce traité est très décrié, vous le savez, je ne vous apprends rien. Le citoyen n'y comprend pas grand-chose, pour dire vrai. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots pourquoi il faut négocier avec les Américains ?
Je comprends le citoyen, c'est compliqué. C'est un traité qui concerne beaucoup d'aspects différents, c'est très technique. C'en n'est pas moins important. Il faut effectivement faire un effort d'explication. Bon, pourquoi on négocie ce traité ? Fondamentalement, il y a deux raisons. Il y a une raison économique, c'est contribuer à la reprise de la croissance, à la création d'emplois en Europe. On est dans une situation aujourd'hui qui n'est pas satisfaisante. Donc la question, c'est est-ce que on reste comme ça ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose ? 90% de la croissance mondiale dans les prochaines années, elle sera générée hors Europe. Est-ce qu'on se branche là-dessus ? Et les États-Unis sont un pôle important de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de choses à faire avec les États-Unis. Ou est-ce qu'on reste en dehors de ça ? Ça, c'est la première motivation économique. Et la deuxième, elle est stratégique. Elle est de pouvoir peser dans la mondialisation, peser sur le cours des choses, réguler la mondialisation. Le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace aujourd'hui vers l'Asie. C'est un secret pour personne. L'Europe a une carte à défendre dans la mondialisation. Ça ne doit pas être la libéralisation sauvage, le libre-échange à tout craint. Il faut participer aux échanges internationaux. On a beaucoup à gagner, mais il faut établir un certain nombre de règles. Et pour ça, on a intérêt à renforcer notre relation avec nos principaux partenaires pour définir les règles du commerce mondial.
Alors oui, très bien. Simplement, le citoyen se dit oui, mais est-ce qu'on va pas finalement manger du poulet à l'eau de Javel ? Est-ce qu'on va pas perdre même un peu de démocratie dans tout ça en étant sous la houlette des États-Unis ? Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça pour les rassurer finalement ?
C'est une vraie question, c'est une question importante. Ce serait inacceptable si c'était le type de résultat auquel conduiraient ces négociations. Mais là-dessus, tout le monde est très clair au niveau des institutions européennes qui décident, la Commission européenne, le Conseil, les États membres, les 28 États membres de l'Union européenne, le Parlement européen, élu au suffrage universel direct. Il y a un mandat de négociation qui est très clair, qui a été donné par les États membres à la Commission, qui dit clairement non aux hormones, non aux EGM. Il y a des lignes rouges qui sont très claires là-dessus. On a des objectifs de négociation qui doivent permettre de contribuer à la croissance et à l'emploi. Et on a des lignes rouges. Et ça fait partie des lignes rouges. Et le Parlement européen a fait exactement la même chose. Il a voté une résolution sur ces négociations où il soutient dans l'ensemble les négociations en disant notre soutien, il est conditionné par le fait que vous reveniez avec un accord qui permette d'effectivement contribuer à la croissance, mais qui ne remette pas en cause d'une quelconque manière nos préférences collectives, nos choix sociaux à nous en Europe.
Et puis ce qu'il faut savoir aussi, qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a eu d'autres négociations avec d'autres États.
Oui, on croit souvent que c'est la seule, parce que c'est la seule dont on parle vraiment, auquel les gens s'intéressent dans le débat public, et on croit qu'on a une relation exclusive avec les États-Unis. En réalité, l'Union européenne aujourd'hui est peut-être la zone dans le monde qui a la politique la plus active à l'échelle mondiale de négociation, d'accord avec ses principaux partenaires. On négocie avec la plupart des pays du monde, en réalité, de grands pays industrialisés comme le Japon ou le Canada, mais aussi de grands pays émergents comme l'Inde ou le Brésil, des pays émergents plus petits comme Singapour ou la Thaïlande. Et avec tous ces partenaires, on s'efforce de négocier des accords qui sont favorables pour l'économie européenne. On a conclu récemment un accord avec la Corée. Le résultat, maintenant, 4 ans après la mise en œuvre de cet accord, c'est 50% d'augmentation des exportations européennes. En 4 ans, c'est quand même pas négligeable. C'est un déficit commercial traditionnel avec la Corée qui était un marché très fermé, un maquis de mesures, de barrières non tarifaires qui était très difficile à pénétrer pour les entreprises européennes. Donc un déficit commercial qui est devenu un excédent commercial avec la Corée. Et des parts de marché européennes dans les importations coréennes qui sont passées de 9% des importations coréennes à 13% des importations coréennes. Donc on a beaucoup gagné par rapport aux autres fournisseurs de la Corée, la Chine, le Japon, les États-Unis. Le Japon a perdu 2 points de parts de marché quand nous on en gagnait 4. Il y a un jeu comme ça au niveau mondial, une redistribution des cartes, et l'Europe est très active pour essayer de défendre son intérêt dans ces négociations internationales.
Dernière question, pour combien de temps y en a-t-il ? Car on parle du TTIP, de TAFTA, enfin on parle de ce traité, mais ça va durer combien de temps ces négociations ?
C'est toujours difficile à dire. L'objectif, c'est de conclure sous l'administration Obama. Il y a une vraie volonté côté américain maintenant de conclure sous l'administration Obama. L'Europe est prête à conclure sous l'administration Obama, mais à une condition. Cette condition, c'est qu'on ait un accord qui soit bénéfique pour l'Union européenne, qui soit équilibré. Qui satisfasse nos ambitions. J'ai parlé du mandat de négociation donné par les États membres, de la résolution du Parlement européen. La condition sine qua non, c'est que ce qu'il y a dans cet accord réponde à tout ça. Tout ça peut prendre du temps. Il ne faut pas se leurrer non plus.
Mais Obama va partir.
Si on peut conclure cette année sous Obama, et si les Américains sont prêts à bouger suffisamment pour nous donner satisfaction, on conclura dans ces conditions. Mais il n'est pas question de conclure sur une base qui serait insatisfaisante du point de vue européen. Ce qui sera toujours prédominant dans la décision, c'est la qualité de l'accord, ce qu'il peut nous apporter, beaucoup plus que le timing. S'il faut prendre un peu plus de temps pour conclure, on prendra un petit peu plus de temps pour conclure.
Eh bien, j'oserais dire, nous comptons sur vous et nous vous souhaitons bon courage. Merci beaucoup, Monsieur Boursieux, et bon séjour à Toulouse. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle chronique européenne. Et en attendant, je vous dis ciao, tchuss, à bientôt, à Dichat.